BW. Vue d'Allemagne.
Les élections fédérales allemandes, on en a beaucoup parlé ces derniers jours sur l'antenne de la DW, mais le 26 septembre, il y avait aussi d'autres élections. Dans ce numéro de Vue d'Allemagne, coup de projecteur sur les scrutins au Mecklembourg-Poméranie occidentale et à Berlin.
On est baladé entre deux mondes et on ne sait plus à quel monde on appartient. Et jusqu'à aujourd'hui, on a encore le sentiment que l'État français ne veut pas de nous.
Considérés comme des traîtres dans leur pays d'origine, l'Algérie, les Harkis et leurs descendants réfugiés en France se sentent toujours exclus. Notre correspondant Nadir Djennad a recueilli des témoignages lors de la journée d'hommage aux Harkis. Son reportage dans la deuxième partie de ce magazine. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen et bienvenue. Paris réussit pour Olaf Scholz, mais aussi pour Manuela Schwesig et Franziska Giffey. Tous les trois ont conduit le SPD à la victoire dimanche 26 septembre. C'est sous les applaudissements qu'ils font leur apparition le lendemain au siège du Parti social-démocrate à Berlin. Et si Olaf Scholz a remporté les élections fédérales, mais n'est toujours pas sûr d'être le prochain chancelier, il en va tout autrement pour Franziska Giffey à Berlin et Manuela Schwesig à Schwerin. Elles seront toutes deux à la tête d'un gouvernement régional ces cinq prochaines années. Entre elles, c'est Manuela Schwesig qui a le plus de raisons de triompher. Après sa victoire aux élections du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, près de 40% des voix. Voilà un score que les sociaux-démocrates auraient aimé atteindre au niveau fédéral. L'ancienne ministre est à la tête de la région du nord-est de l'Allemagne depuis 2017. Mais c'est la première fois qu'elle remportait une élection, puisque son prédécesseur avait dû démissionner pour des raisons de santé. Elle ne cachait pas sa joie dimanche soir à l'annonce des résultats qui la placent loin devant les autres candidat.
Je suis très heureuse d'avoir pu être ces quatre dernières années à la tête du plus beau Land d'Allemagne. Et je suis aussi très reconnaissante que les électeurs m'aient donné un mandat aussi clair pour rester ministre-présidente.
Pour le politologue Roland Sturm, professeur en sciences politiques à l'université d'Erlangen, la victoire de Manuela Schwesig n'a rien d'étonnant. Il constate une tendance grandissante en Allemagne, la personnalisation de la politique.
Parce qu'on a de moins en moins d'électeurs réguliers et de plus en plus de gens qui sont mal informés ou s'orientent par rapport à ceux qui gouvernent déjà. Dans cette région, c'est très clair. Le SPD n'a même pas inscrit le nom du parti sur les affiches où figurait Manuela Schwesig. Il était vraiment clair que le SPD allait gagner. Il ne pouvait pas perdre.
Loin derrière le SPD, le parti d'extrême droite AfD s'est de nouveau imposé comme deuxième force politique de la région avec 16,7% des voix. Un score inférieur à celui des précédentes élections, mais selon Roland Sturm, cela est dû surtout à une augmentation de l'abstention. Pour Manuela Schwesig, les possibilités de coalition sont nombreuses. Elle peut aussi bien pencher vers la gauche en s'alliant au parti Die Linke que vers le centre avec les libéraux et les écologistes, ou bien tout simplement reconduire la grande coalition avec la CDU au pouvoir depuis 2016. Le politologue Roland Sturm estime toutefois que les conservateurs, qui ont perdu presque 6 points par rapport aux précédentes élections, devraient y réfléchir à deux fois.
On voit apparemment, même au niveau fédéral, que le partenaire junior ne sort jamais gagnant d'une coalition, mais que c'est toujours le partenaire senior. Madame Merkel a engrangé tous les bénéfices de ce que le SPD a atteint. Donc la CDU doit bien réfléchir pour savoir si elle aide à constituer une majorité et obtient des postes, ou si elle préfère, pour sa propre survie, aller dans l'opposition pour se refaire un profil et retrouver des électeurs.
À Berlin aussi, les négociations de coalition sont en cours après la victoire du Parti social-démocrate avec 21,4% des voix, juste devant les écologistes qui ont obtenu, eux, 18,9%. Les deux partis étaient au coude à coude dans les sondages de sortie des urnes, mais ce qui est certain, c'est que la ville-État de Berlin aura une femme à sa tête, l'actuelle ministre de la Famille, Franziska Giffey. Cette dernière n'a pas forcément envie de reconduire la coalition avec Die Linke et les Verts. Une question centrale s'est en effet invitée dans la campagne. ligne, celle du logement. Dimanche 26 septembre, les Berlinois devaient aussi répondre à un référendum d'initiative citoyenne pour ou contre la nationalisation de sociétés immobilières possédant plus de 3000 logements. Résultat, le oui l'a emporté à 56,4%. Sauf que Franziska Giffey ne soutient pas cette mesure portée par les écologistes Die Linke et l'aile gauche de son propre parti, le SPD berlinois. Karine Fertig est maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Strasbourg. Il explique pourquoi cette question du logement est devenue si importante à Berlin.
Berlin a joui pendant longtemps d'une situation assez favorable en comparaison des autres capitales européennes en matière de prix du logement. Mais depuis une vingtaine d'années, en fait, il y a une augmentation des prix de l'immobilier. Entre 2007 et 2019, les loyers ont augmenté de 85% à Berlin. Et après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Berlin a cette particularité d'être une ville où il y a depuis longtemps des associations de locataires qui sont très anciennes et puis beaucoup de coopératives de logements ou d'associations qui sont actives dans ce domaine et qui contribuent à faire de la question du logement pas seulement une question marchande, mais ce que certains ont appelé une nouvelle question sociale. Et c'est un peu la tension qui existe entre le logement comme besoin fondamental et le bien immobilier comme une source de revenus et de profits qui s'exprime aussi dans cette initiative de nationalisation des biens immobiliers des grands groupes qui possèdent des logements locatifs à Berlin.
Avant les élections, Franziska Giffey avait donc fait campagne contre cette mesure. Aujourd'hui, la future maire de Berlin est obligée de mettre de l'eau dans son vin, même si elle n'a pas changé d'avis sur le fond.
Je me suis positionnée très clairement là-dessus avant les élections. Je suis toujours convaincue que l'expropriation ne contribuera pas à créer un seul nouveau logement, ni à régler la question du logement abordable. Mais nous avons un référendum qui a donné un résultat clair que nous devons respecter. Nous devons agir avec responsabilité.
L'initiative favorable à l'expropriation part du principe que les loyers pourront baisser si les logements ne sont plus détenus par des sociétés à but lucratif et que cela profiterait au marché du logement dans son ensemble. Mais pour le politologue Roland Sturm, c'est omettre le coût d'une telle mesure pour les caisses publiques.
Le Land de Berlin est fauché. Où compte-t-il prendre l'argent pour dédommager les sociétés immobilières? On ne peut pas exproprier les gens en Allemagne aussi simplement. Il faut leur donner de l'argent.
Karim Fertig reste quant à lui prudent sur les effets de la mesure.
On ne sait pas exactement si cette mesure va être mise en œuvre telle qu'elle a été votée, puisque ces référendums ne sont pas contraignants pour l'autorité politique. On signale le risque juridique et puis le coût économique de cette mesure, même si les estimations elles sont extrêmement divergentes en fonction de ceux qui les font. Ce qui est certain, c'est que ça met l'autorité politique dans une position de négociation un peu plus forte vis-à-vis des grands groupes, puisque ça leur laisse d'une certaine manière cet instrument sur la table pour établir un rapport de force avec les grands groupes en fait qui sont propriétaires de plusieurs centaines de milliers de logements à Berlin.
Jusqu'ici, le marché de l'immobilier ne semble pas trop impressionné par le résultat du référendum à Berlin, dont la mise en œuvre dépendra donc de la coalition qui sera au pouvoir dans la capitale allemande. Deuxième partie, la France rendait hommage aux harkis le 25 septembre dernier. Une journée nationale à la mémoire de ces supplétifs algériens engagés pendant la guerre d'Algérie par l'armée française. Plusieurs historiens estiment qu'il y a eu 400 000 à 500 000 hommes qui se sont enrôlés du côté de l'armée française. Après les accords d'Évian qui ont mis fin au conflit et ouvert la voie à l'indépendance de l'Algérie le 18 mars 1962, environ 100 000 harkis et leurs familles sont partis se réfugier en France craignant les représailles du FLN, le Front de libération nationale algérien. Mais leur accueil s'est fait dans des conditions précaires, sans réelle perspective d'intégration pour eux-mêmes ni pour leurs enfants. Depuis des années, les enfants de harkis se battent pour obtenir la reconnaissance par l'État français du drame qu'ils ont vécu, ainsi que des réparations. Le président français Emmanuel Macron a multiplié les gestes ces derniers jours envers eux. C'est un reportage de Nadir Djennad.
Serge Carrel assiste depuis 2003 à toutes les cérémonies en hommage au Harki le 25 septembre. Mais cette année, le contexte est différent. Le 20 septembre dernier, le président français Emmanuel Macron a demandé pardon au nom de la France, aux Harkis et leurs enfants, pour les souffrances qu'ils ont subies. Serge Carrel, âgé aujourd'hui de 84 ans, est ému.
On va accepter ce pardon, mais on n'oublie rien. Vous savez, le passé reste le passé, et c'est pas pour ça qu'on va oublier le passé. C'est impossible. Moi, j'y pense tous les jours.
Serge Carrel fait partie de ce que l'armée française a appelé les supplétifs, que l'on désigne aussi sous le terme de Harki. Serge Carrel, c'est son nom d'emprunt, a notamment servi d'interprète auprès d'officiers de l'armée française dès 1957. Il s'est occupé également du renseignement. Le choix de la France était pour lui naturel.
Mon père, lui, il a fait la guerre 14-18. Il a été décoré de la Croix de guerre. Mes deux frères, l'un, il était dans la marine. Il avait fait l'Indochine et l'Algérie. L'autre frère, il était dans l'aviation. Il est hors de question de trahir mes parents. Toute une famille au service de la France et toute une famille abandonnée par la France.
Comme Serge Carrel, à leur arrivée en France après 1962, les Harkis et leurs enfants vivaient dans des camps situés dans le sud du pays. Ces anciens combattants ne comprenaient pas pourquoi, après avoir servi dans l'armée française, ils ont été accueillis de la sorte dans des conditions précaires. Arkati Ayaoui est aujourd'hui âgé de 64 ans. Enfant de Harki, il a vécu de longues années dans le camp de Rivesalt, dans les Pyrénées-Orientales. Il vit aujourd'hui à Maubeuge, dans les Hauts-de-France, et s'estime trahi par la France.
Le seul reproche que je fais à De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait à nos parents? Ils se sont battus, il les a désarmés, et il les a mis dans les camps de la honte. Des camps de la honte. La plaie, elle est trop forte.
Boujma Swali, âgé de 64 ans, a le même parcours qu'Arkati et Yayaoui. Passé par plusieurs camps, sans véritable instruction, il évoque une vie gâchée.
Ça nous a détruits, hein. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, je ne sais même pas si on existe, hein, réellement. Il y a eu trop de casse. Moi, à cause d'eux, j'ai tourné le dos à la société. Donc, j'aurais pu faire des études, je ne suis pas con, hein, je suis comme tout le monde. Hein. Si on nous avait vraiment donné notre chance, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui.
Kamel Atamena, âgé de 61 ans, a aussi connu la vie difficile dans le camp de Rivesalt. Mais lui a eu plus de chance, il a pu poursuivre des études. Aujourd'hui fonctionnaire, il s'estime cependant toujours rejeté par la France et les Algériens.
On est baladé entre deux mondes et on ne sait plus à quel monde on appartient. Aujourd'hui encore, on n'est pas assimilé à des immigrés et on n'est pas français. On est où? Et jusqu'à aujourd'hui, on a encore le sentiment que l'État français ne veut pas de nous.
Ces dernières années, les autorités françaises ont pris des mesures en faveur des Harkis. Une journée nationale d'hommage célébrée le 25 septembre a été instituée en 2003 par Jacques Chirac, président de la République. François Hollande, alors chef de l'État, avait reconnu en 2016 les responsabilités de la France dans l'abandon des Harkis. Dernièrement, le président Emmanuel Macron, outre le pardon de la France, annonce une loi portant sur la reconnaissance et la réparation à l'égard des Harkis avant la fin de l'année 2021. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants.
Elle a pour but de reconnaître les manquements de la République vis-à-vis des Harkis et de leurs familles et vis-à-vis de ceux qui ont été présents pendant quelquefois de longues périodes dans les camps et les hameaux de forestage. Ensuite, il y aura une partie réparation qui sera mise en œuvre par une commission qui étudiera au cas par cas la façon de réparer. C'est l'aboutissement de cette reconnaissance de la nation, ou du moins des manquements de la République vis-à-vis des Harkis, qui va être inscrit dans le marbre d'une loi.
D'après les Harkis rencontrés et leurs enfants, l'État français a une dette immense envers eux. Des enfants de Harkis se sont mobilisés en portant sur la place publique leurs revendications. C'est le cas de Fatima Besnassi-Lankou, historienne et cofondatrice de l'association Harkis et droits de l'homme.
Sans mobilisation, les politiques n'auraient jamais bougé. Je suis arrivée dans le milieu associatif au début des années 2000, hein, quand j'ai publié « Filles de Harkis ». J'en étais dans tous les endroits stratégiques, dans des hauts lieux de la République, à l'Assemblée nationale, on était au Sénat. Et donc, on a rendu la question extrêmement visible.
Les Harkis et leurs enfants que nous avons pu rencontrer vont être très vigilants quant au contenu de la loi de réparation qui sera annoncée avant la fin de l'année. Tous espèrent qu'ils obtiendront enfin une plus grande reconnaissance par l'État français du drame qu'ils ont vécu. Nadir Djennad à Paris pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotatalon. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !